Leur incrédulité peut-elle annuler la fidélité de Dieu? Romains chapitre 3, versets 3 à 8. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Comme quelques-uns, qui nous calomnient, prétendent que nous le disons, la condamnation de ces gens est juste. La fidélité de Dieu est le salut parfait. Nous avons reçu la rémission de tous les péchés par le salut que le Seigneur nous a accordé. Notre Seigneur est venu sur cette terre et, en recevant le baptême dans le Jourdain, a pris sur lui, une fois pour toutes, tous les péchés commis par l'humanité depuis la naissance jusqu'à la mort, le péché originel et hérité des parents et tous les péchés actuels commis tout au long de la vie, et les a ôtés. De plus, en recevant à notre place le jugement que nous méritions sur la croix, il nous a sauvés, nous qui croyons en Jésus-Christ, de tous les péchés. De cette manière, nous avons obtenu la rémission des péchés en croyant dans nos cœurs au salut accompli par l'eau et le sang de Jésus-Christ, et nous sommes devenus sans péché devant Dieu. Cependant, concernant le fait que nous avons reçu la rémission des péchés par la foi, certains posent des questions calomnieuses. Des personnes qui nous comprennent mal existent encore aujourd'hui disant « Puisque nous avons maintenant reçu la rémission des péchés, nous pouvons pécher à notre guise. » Ou « Puisque la justice de Dieu a été révélée en nous sauvant, nous qui sommes mauvais, nous pouvons commettre encore plus de mal pour la gloire de Dieu. » Environ 2000 ans se sont écoulés depuis que l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Romains, mais la situation est similaire alors et maintenant. Même à cette époque, il y avait des saints qui étaient sauvés en croyant en Jésus-Christ, mais ceux qui n'étaient pas nés de nouveau les calomniaient et les persécutaient. Cependant, ce n'est pas parce que les hommes ne croient pas au salut de Dieu que l'œuvre de la rémission des péchés que Dieu a accomplie devient nulle et sans effet. La Bible répond clairement à la question de savoir si l'incrédulité de l'homme peut annuler la fidélité de Dieu. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Romains chapitre 3, versets 3 à 4. Le salut de Dieu qui demeure inchangé même si l'on ne croit pas? Le passage « Leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ?» se réfère au fait historique du salut fidèle que Dieu a accompli. Comme promis dans l'Ancien Testament, Dieu est venu sur cette terre, a pris sur lui les péchés de l'humanité en recevant le baptême, est mort sur la croix, puis est ressuscité 3 jours plus tard, éliminant ainsi complètement les péchés du monde entier. Ce n'est pas parce que nous ne croyons pas à ce fait que l'œuvre du salut que Dieu a déjà accomplie peut devenir nulle et sans effet. Si les hommes ne croient pas, ils vont simplement en enfer à cause de cette incrédulité. Le fait historique que Dieu a ôté les péchés des hommes ne change pas. Cela est certain. Même si nous ne croyons pas du côté de Dieu, il a déjà ôté tous nos péchés. Cependant, le fait d'obtenir le salut ou non dépend de la loi de la foi. Ceux qui croient reçoivent le don du salut, mais que deviendra-t-il de ceux qui ne croient pas? Même si Dieu a déjà ôté tous les péchés et nous a rendus justes, à cause du fait qu'ils n'acceptent pas cette réalité, ils finissent par recevoir le jugement, tout en portant encore leurs propres péchés. À titre d'exemple, j'ai un jour regardé le film Ghost. Le contenu parlait d'un protagoniste devenu esprit après avoir été assassiné, mais qui ne pouvait pas partir parce qu'il craignait que sa bien-aimée laissée derrière soit en danger. Alors il restait à ses côtés pour la protéger. Son cœur désespéré de vouloir protéger la personne qu'il aimait même après la mort était impressionnant. Le film avait une esthétique visuelle très épurée, ce qui permettait au public de ressentir facilement de l'empathie. Bien que cela soit quelque peu différent du concept de réincarnation évoqué dans diverses religions, cela m'a fait penser « une personne qui aime peut protéger quelqu'un ainsi même après la mort » ou « un esprit mort injustement pourrait rester quelque temps ». De plus, des éléments comme le fait qu'un esprit apprenne à déplacer des objets physiques ou l'existence d'un système semblable à une hiérarchie entre esprits morts plutôt étaient intéressants. Beaucoup de gens ont dû ressentir des émotions poignantes en regardant ce film. Une scène particulièrement marquante était celle où le méchant mourait. Dès que le méchant mourut et que son esprit quitta son corps, des formes noires apparurent du sol, en émettant des sons étranges, accrochèrent ses bras et l'entraînèrent de force. Cet endroit, où supplier d'être sauvé ne servait à rien, n'était autre que l'enfer. Dans le film, l'esprit bon, qui était mort injustement, était représenté comme allant au ciel en suivant une lumière éclatante, tandis que ceux qui avaient l'habitude de commettre le mal dans le monde étaient entraînés en enfer par des esprits sombres. Bien sûr, il s'agit d'un cadre propre à un film, mais en le regardant, cela m'a fait réfléchir une fois de plus au monde éternel. Les promesses de l'Ancien et du Nouveau Testament, l'imposition des mains, le baptême et la croix. Jésus a déjà ôté tous les péchés de notre humanité. Dieu a effacé tous les péchés sans en laisser aucun, depuis le péché originel et les péchés commis jusqu'au péché futur. Néanmoins, la raison pour laquelle les gens vont en enfer n'est pas que Dieu n'a pas ôté le péché, mais qu'ils ne croient pas à ce fait. Ce n'est pas parce que nous ne croyons pas que le salut que Dieu a accompli devient nul et sans effet. En effet, le péché en tant que réalité objective a déjà disparu. Cependant, le don du salut de Dieu ne devient nôtre que lorsqu'il est accepté par la foi. Parce qu'ils n'acceptent pas le don du salut dans leur cœur et ne croient pas, cette grâce ne peut pas demeurer en eux. Et finalement, ils finissent par recevoir le jugement. Dieu a montré dès le début la loi de l'expiation à travers l'Ancien Testament. Il a établi comme une loi éternelle que le pécheur impose les mains sur une offrande sacrificielle comme un mouton ou une chèvre pour transférer les péchés, et que le pécheur reçoit la libération par la mort de cette offrande à sa place. L'offrande qui recevait les péchés devait nécessairement verser son sang et mourir, et son corps devait être brûlé sur l'autel des holocaustes. La mort de cette offrande était une démonstration concrète de la loi de Dieu selon laquelle le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a promis que le Messie viendrait dans l'avenir, qu'il prendrait ainsi les péchés de l'humanité, qu'il recevrait le jugement à notre place et qu'il nous sauverait. Les saints de l'Ancien Testament ont reçu le salut en croyant à cette promesse. Après une période d'environ 400 ans de silence durant laquelle aucun serviteur de Dieu n'est apparu, Jean-Baptiste est finalement apparu et la promesse du Nouveau Testament a commencé à s'accomplir. Jean-Baptiste, apparu dans le désert, portait un vêtement de poil de chameau, mangeait des sauterelles et du miel sauvage et criait « Repentez-vous !» Il proclamait aux gens qu'ils devaient recevoir le lavage des péchés et préparer le chemin de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, qui est devenu 6 mois avant Jésus, a administré le baptême, la première étape de l'œuvre de salut de Jésus, et a transféré tous les péchés de l'humanité sur Jésus. Tout comme dans l'Ancien Testament, le mouton recevait le péché de l'homme par l'imposition des mains. Jésus, le Fils de Dieu, a personnellement pris sur lui les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Jésus, qui a porté tous les péchés de l'humanité, s'est dirigé vers la croix en portant ses péchés. Et en étant cloué, en versant son sang et en mourant à notre place, il nous a délivrés de tout jugement. De plus, il est ressuscité 3 jours après sa mort, vit éternellement à la droite du trône de Dieu et est devenu le sauveur de tous ceux qui croient en lui. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Romains chapitre 3, verset 4. Comme le dit cette parole, Dieu a accompli exactement ce qu'il avait promis. Pour tenir la promesse de prendre les péchés de l'humanité et de les sauver, il est venu sous forme humaine par le corps de la Vierge Marie, a pris sur lui les péchés de l'humanité à l'âge de 30 ans, et en mourant sur la croix à l'âge de 33 ans, il a complètement sauvé l'humanité du péché exactement comme il l'avait dit. Le Dieu qui triomphe par sa parole. Dieu ne perd jamais face à Satan, le diable, à aucune personne, ni même à ceux qui ne croient pas. La Bible rapporte que le Seigneur est justifié dans ses paroles et qu'il triomphe lorsqu'il est jugé. Parce que Dieu a promis de sauver l'humanité et a accompli cette promesse sans la moindre erreur, il est assuré et honorable face à toute accusation que Satan, le diable, pourrait porter. Comme le dit la parole, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, la fidélité de Dieu n'est pas ébranlée par l'incrédulité humaine. Nous recevons le salut et obtenons la vie éternelle uniquement par la foi. À l'inverse, la raison pour laquelle on reçoit le jugement n'est pas que Dieu n'a pas sauvé, mais que l'on n'a pas cru à ce salut. Dieu a établi la loi de la foi comme la seule manière pour nos vies d'obtenir le salut. Il a établi le principe que si l'on croit, il donne le don du salut. Et si l'on ne croit pas, on reçoit le jugement. Mes amis, le messager de la mort existe-t-il vraiment? Il existe certainement. Lorsqu'une personne meurt, le messager de la mort apparaît et entraîne l'âme. Comme le dit la parole, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Hébreux chapitre 9, verset 27, la vie ne s'achève pas simplement avec la mort. Après la mort, le jugement attend certainement. Le messager de la mort conduit chaque âme à l'endroit où elle doit aller. Celui qui doit aller en enfer est finalement envoyé en enfer. Lorsque notre Seigneur fut cloué à la croix, un brigand d'un côté crut en lui et implora « Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume ». À ce moment-là, le Seigneur promit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Ainsi, une personne née de nouveau habitera certainement dans un lieu béni. Cependant, l'âme qui n'est pas née de nouveau demeurera clairement dans un lieu de châtiment. Le ciel et l'enfer sont réels, et le messager de la mort ainsi que la méthode de salut que Dieu a établie existent également clairement. Le seul moyen de nous sauver de tous les péchés est de croire dans notre cœur au salut que le Seigneur a accompli. Si vous croyez, c'est le salut, si vous ne croyez pas, c'est la malédiction. La seule clé que Dieu a préparée pour l'humanité est précisément la foi. Notre injustice est la justice de Dieu. La foi est la seule méthode que Dieu a permise pour que nos vies puissent recevoir le salut. Par conséquent, une personne qui est sauvée en croyant en Jésus comme son sauveur ne se met jamais en avant et ne dit pas qu'elle est supérieure. Au contraire, nous confessons ainsi « Nous sommes injustes. Il y a vraiment beaucoup de choses dans lesquelles nous péchons et faisons le mal. Nous sommes des êtres humains faibles et insuffisants qui ne peuvent juste s'empêcher de pécher jusqu'à la mort. Mais nous avons reçu le salut uniquement par la foi dans le salut de Jésus-Christ. » Les saints, nés de nouveau, en viennent à confesser que, lorsque notre faiblesse est révélée, la justice de Dieu brille d'une lumière encore plus éclatante. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Romains chapitre 3, versets 5 à 7. Cette parole contient précisément ce sens. Dieu nous a complètement sauvés, nous les injustes qui ne pouvons nous empêcher de pécher jusqu'à la mort, par sa loi juste. Parce que nous avons obtenu le salut malgré notre incapacité, la justice de Dieu qui nous a sauvés est révélée encore davantage. Comme le dit la parole, mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Nous sommes des êtres qui ne peuvent éviter le péché jusqu'au dernier moment de la vie. Il est également écrit dans l'Ecclésiaste qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre qui ne pèche pas. Beaucoup de gens comprennent instinctivement de travers, disant « Il faut croire en Jésus et ne pas pécher pour devenir juste ». Cependant, si les humains étaient des êtres incapables de pécher par eux-mêmes, il n'y aurait eu aucune raison pour le Seigneur de nous sauver, et la justice de Dieu n'aurait pas pu resplendir. Si cela s'était produit ainsi, la gloire du salut aurait ressemblé à une demi-lune partagée à parts égales entre Dieu et les humains. Une image concrète où une moitié est la lumière de Dieu et l'autre moitié est mêlée à la couleur terreuse jaunâtre de l'homme. Si le salut s'obtenait par le fait que les humains accomplissent quelque chose de bien, non seulement il n'y aurait personne pour remercier sincèrement Jésus, mais la profondeur de cette gratitude serait aussi extrêmement superficielle. Il n'y a même pas 0,1% de notre mérite dans le salut. Si même seulement 0,1% de notre propre mérite entrait dans notre réception du salut, nous finirions rapidement par oublier les 99,9% de l'œuvre du salut que Dieu a accomplie. À quel point les gens se vantent-ils même s'ils n'ont qu'une seule petite chose dans laquelle ils excellent? C'est la nature humaine. Si Dieu avait dit qu'il n'avait ôté que les péchés commis avant que nous croyions, et que pour les péchés après la foi, nous devions nous-mêmes les laver par des prières de repentance ou par des actes et des moyens, nous n'aurions jamais loué Jésus sincèrement. Au contraire, nous aurions été triomphants en louant nos propres actes. La parole « Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous » présuppose le fait que nous sommes des êtres qui ne peuvent s'empêcher de pécher jusqu'à notre mort. Pour nous qui ne pouvons nous empêcher de pécher jusqu'au dernier souffle, le Seigneur nous a sauvés en prenant sur lui et en résolvant tous ses péchés d'un seul coup. Ceci est le véritable salut de Dieu. Le fait étonnant est que Dieu nous a déjà sauvés il y a 2000 ans, avant même que nous soyons nés, avant même que nous soyons dans les reins de nos ancêtres. Dieu est venu sur cette terre pour faire de nous son peuple et a pris sur lui tous les péchés de l'humanité au Jourdain. Il nous a sauvés en recevant personnellement le jugement pour tous les péchés du monde. ce salut a été accompli en une seule fois. Il y a environ 2000 ans, bien avant que toi et moi soyons nés, nous étions déjà confirmés comme étant sans péché devant Dieu. Aux yeux de Jésus Tout-Puissant, toi et moi, tels que nous sommes aujourd'hui, étions déjà vus il y a environ 2000 ans. Parce que le Seigneur est fondamentalement Dieu et l'Éternel, il savait déjà que nous naîtrions environ 2000 ans plus tard, que nous serions conçus comme pécheurs dès le sein de notre mère et que nous naîtrions dans le péché. Parce qu'il connaissait d'avance tous les péchés que nous commettrions de la naissance jusqu'à la mort, le Seigneur a pris tous ces péchés par le baptême et les a purifiés. Avant même que nous existions, le Seigneur nous avait déjà sauvés et est devenu notre véritable Sauveur et Dieu. Ceci est précisément le salut parfait de Dieu dans lequel aucun mérite humain n'est mêlé, et c'est la justice de Dieu. Les humains qui ne peuvent s'empêcher de pécher jusqu'à la mort est la justice de Dieu. Avant la parole, mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Quelle parole aurions-nous à dire? Nous commettons toujours des péchés, mais malgré cela, devant la justice de Dieu et le salut parfait qui nous a déclarés sans péché, qui pourrait contester ou formuler une plainte? Peut-être que certains protesteraient devant Dieu ainsi, « Si tu enlèves tous les péchés même avant que nous naissions, quel intérêt y a-t-il ? » Il devrait y avoir une sorte d'émotion à recevoir le jugement dû quand on commet un péché. Mais n'est-ce pas un salut trop contraignant et unilatéral que d'éliminer tous les péchés sans même demander ? Cependant, une âme sauvée ne peut jamais parler ainsi. Au contraire, nous sommes seulement reconnaissants. Parce que, à cause de la fausseté de la vie qui ne peut s'empêcher de pécher, le salut de Dieu est témoigné encore plus abondamment. Et cet amour qui nous a délivrés, nous qui sommes remplis de défauts jusqu'à la mort, rend Dieu encore plus glorieux. Malgré notre insuffisance, Dieu a fait de nous des personnes justes qui n'ont pas un seul péché. La faiblesse humaine est paradoxalement devenue un canal qui révèle encore davantage la gloire de Dieu. Celui qui croit à ce fait ne reçoit jamais le jugement. Cependant, celui qui garde encore ses propres péchés ou ne croit pas que Jésus a éliminé tous les péchés en une seule fois demeure un pécheur et reçoit le jugement. Si l'on croit, on est juste. Si l'on ne croit pas, on est pécheur. Le malentendu des calomniateurs et l'apologétique de l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 3, verset 8, il est écrit « Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien ?» Cela montre exactement la logique de ceux qui calomnièrent l'Évangile à cette époque. Il parlait ainsi « Si Jésus a enlevé tous les péchés que vous commettez jusqu'à la mort, et que cela devient la gloire de Dieu, diriez-vous alors que nous devons commettre davantage de péchés pour faire briller encore plus la gloire de Dieu ?» L'apôtre Paul a déclaré avec fermeté qu'il est juste que ceux qui tiennent de tels propos calomnieux reçoivent la condamnation. Parmi les personnes dans le monde qui ont reçu la rémission des péchés, où trouverait-on quelqu'un qui se réjouit de péché et décide délibérément de commettre le péché? La raison pour laquelle les croyants comme les non-croyants commettent des péchés n'est pas qu'ils soient mauvais, mais que les êtres humains sont faibles et insuffisants. Si nous avions la capacité de ne pas pécher, nous resterions naturellement loin du péché et ferions l'œuvre de Dieu, mais la réalité de l'homme est que, en vivant, la convoitise surgit et les émotions prennent le dessus, conduisant à des disputes ou à la haine. En entendant la vérité de l'Évangile selon laquelle même les péchés futurs ont tous été ôtés, les calomniateurs comprennent à tort comme si les justes allaient délibérément pécher en prenant la gloire de Dieu comme prétexte. Cependant, le péché n'est pas quelque chose que l'on commet ou non simplement par décision. Tout comme, dans l'Ancien Testament, des sacrifices pour le péché étaient offerts pour les péchés commis sans le savoir, tous les péchés que les humains commettent le sont finalement à cause de la faiblesse. Nous ne faisons pas un plan en 10 ans, je commettrai ce type de péché dans 10 ans, comme un plan quinquennal de développement économique, pour ensuite pécher. Nous trébuchons simplement dans notre faiblesse et commettons des péchés en vivant. Le Seigneur a déjà ôté précisément toutes ses fautes. Même il y a environ 2000 ans, à l'époque de l'apôtre Paul, de telles calomnies ne cessaient pas. Lorsque Paul prêchait avec audace, « Bien que nous soyons insuffisants, le Seigneur a pris même nos péchés futurs en recevant le baptême au Jourdain et a résolu tous les péchés sur la croix. » Les non-croyants tourmentaient et calomniaient constamment les saints. Si nous changeons de position et y réfléchissons, leur malentendu est aussi compréhensible. Ils prétendent croire en Jésus eux-mêmes, mais vivent encore dans la peur sous le poids du péché. Cependant, comme les justes nés de nouveau disent avec assurance, nous n'avons pas de péché. Cela leur paraît effrayant, comme si nous étions des personnes capables d'agir avec audace même après avoir tué quelqu'un. C'est la limite de la pensée humaine. La Bible dit « là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, mais ils comprennent mal cette grâce, critiquent en disant que les justes ont l'intention de pécher volontairement et hésitent à se mêler à nous. Cependant, au milieu de toutes ces calomnies, la justice de Dieu demeure fermement immuable. Le salut parfait obtenu par la foi est la relation entre l'esprit et la chair. Nous avons reçu la sainteté comme un don de Dieu et sommes désormais devenus ceux qui n'ont pas de péché. Ainsi, nous nous efforçons plutôt de ne pas commettre de péché. Cependant, la chair demeure encore en nous. Comme le dit la parole, ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair veut encore aller dans la direction qu'elle désire. Pourtant, nous qui sommes nés de nouveau vivons en maîtrisant et en retenant la chair, en suivant le désir de l'esprit. Notre salut est par la foi, et plus précisément, c'est notre cœur, esprit, qui a obtenu le salut par la foi. Par conséquent, nous louons Dieu avec notre cœur, bien que, en regardant la chair, nous ne puissions que déplorer qu'elle soit encore un corps de mort, nous en venons à louer et à remercier d'autant plus le Seigneur qui nous a délivrés de ce corps de mort. Nous sommes reconnaissants pour le salut de Jésus et nous éprouvons plutôt de la compassion pour ceux qui nous calomnient. À ceux qui nous calomnient en disant « Vous allez volontairement commettre davantage de péchés pour révéler la gloire de Dieu », nous répondons clairement « Ce n'est pas notre véritable cœur et votre pensée est un malentendu ». Beaucoup de gens de cette époque ne comprennent pas le principe selon lequel la chair est chair et l'esprit est esprit. La chair aime encore les choses de la chair et l'esprit aspire à la sainteté de Dieu. Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils unique, et il nous a sauvés en transférant tous nos péchés sur son Fils et en le jugeant à notre place. Notre esprit obtient le salut en croyant précisément à ce fait. Même après avoir reçu le salut, notre chair aime encore les choses charnelles, jusqu'à ce que notre corps soit transformé en un corps spirituel qui transcende le temps et l'espace, comme lors de la résurrection de Jésus, la chair demeure inévitablement dans un état de chair. C'est comme une personne qui aimait les plats épicés ou les piments avant de naître de nouveau et qui continue à les aimer même après être née de nouveau. Ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau ne comprennent pas ce point que la chair d'une personne est ainsi. Ils pensent que l'on peut dire « il n'y a pas de péché » seulement si, lorsqu'une personne naît de nouveau, même la chair est soudainement transformée et devient un état où elle ne commet plus du tout de péché. Ainsi, puisqu'ils pensent aux choses de l'esprit selon le critère de la chair, ils ne comprennent pas l'évangile. Cependant, l'esprit est esprit, et la chair possède la faiblesse de commettre le péché jusqu'à la mort. Même l'apôtre Paul a lamenté « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Cette parole signifie que la chair va à l'encontre de la volonté de Dieu et tente de suivre uniquement ce qu'elle désire. Le corps physique reste simplement un corps physique jusqu'au jour de sa mort. Le fait que nous soyons sauvés en croyant dans notre cœur, au salut accompli par l'eau et le sang de Jésus-Christ, signifie que notre esprit a été sauvé, et non que notre corps physique a été sauvé complètement et parfaitement dès maintenant, sur le péché encore commis même après être né de nouveau. Au dernier jour, lorsque le Seigneur reviendra, notre corps physique subira un changement soudain et sera transformé en un corps spirituel, semblable à celui de Dieu. Lorsque ce moment viendra, ce corps physique ne commettra plus de péché, mais pour l'instant, il demeure encore dans la faiblesse de péché. La raison pour laquelle ceux qui ne sont pas nés de nouveau confondent le principe « l'esprit est esprit et la chair est chair » se trouve ici. Il réplique « Puisque vous commettez des péchés, comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas de péché? Si quelqu'un commet des péchés, n'est-il pas naturel qu'il soit un pécheur? Si l'on pense uniquement selon le critère de la chair puisque l'on commet des péchés, il est correct de dire que l'on est pécheur et comme on continuera à pécher à l'avenir, il semble naturel d'avoir du péché. Cependant, regardez maintenant avec les yeux de l'esprit. Notre Seigneur est venu sur cette terre il y a 2000 ans et a déjà ôté tous les péchés même de toi et de moi qui sommes des personnes du futur. Si le Seigneur venait plus tard, Jésus a déjà ôté même les péchés des personnes qui naîtront des centaines de millions d'années plus tard, c'est-à-dire les péchés de toute l'humanité jusqu'au jour où le monde existera. Réfléchissez-y. Notre cœur peut aller sur la Lune en ce moment même et peut revenir dans le passé comme s'il montait dans une machine à remonter le temps. Le cœur est plus rapide que la lumière et n'est pas limité par le temps et l'espace. Dieu qui est esprit l'est encore plus. Parce que Dieu est l'Éternel et possède une puissance infinie, même il y a 2000 ans, il connaissait déjà les péchés que nous commettrions à l'avenir et a décidé d'ôter ces péchés. Dieu ne s'est pas contenté de porter ce dessein dans son cœur, mais il est venu sur cette terre, revêtu de chair humaine, pour nous sauver réellement. En recevant le baptême dans le Jourdain, il a pris sur son corps tous les péchés de l'humanité, et en recevant le jugement dans cette chair sur la croix 3 ans plus tard, il nous a complètement libérés du péché. Parce que Dieu est esprit, il a été possible de nous rendre éternellement sans péché en transcendant le temps et l'espace. Parce qu'ils ne comprennent pas ainsi la distinction entre l'esprit et la chair, beaucoup de gens ne réalisent toujours pas l'évangile de l'élimination du péché. Si quelqu'un croit à cet évangile avec un cœur qui cherche le Seigneur, il peut pleinement l'accepter. Mais s'il est enfermé dans sa propre apparence et ne pense que de manière charnelle, le mystère du Christ devient une énigme totalement insoluble. Le monde de l'esprit est un monde invisible du cœur, mais il est réel. Si vous acceptez cette vérité avec votre cœur, cela deviendra la nouvelle la plus joyeuse au monde. Nous avons reçu le salut en croyant à l'œuvre accomplie par le Sauveur éternel. Maintenant, nous sommes des personnes justes devant Dieu. Il n'y a personne qui décide de commettre le péché volontairement simplement parce qu'il est devenu juste. Le corps physique est insuffisant, si bien que l'on peut faire des erreurs et tomber, mais le véritable cœur d'une personne née de nouveau ne désire jamais le péché. Même après être né de nouveau, lorsque la foi est faible, on peut se blâmer en voyant la chair commettre le péché, en pensant « je suis sans doute une personne qui aime le péché ». Cependant, ce n'est qu'une pensée charnelle. En réalité, notre homme intérieur, né de nouveau, n'aime pas le péché. Notre cœur aspire toujours à la sainteté et à la pureté. Nous devons nous souvenir que ce n'est que la chair faible qui entraîne notre cœur pour un moment. Les personnes qui ne connaissent pas la vérité, ce n'est pas parce que les gens ne croient pas que le salut accompli par Dieu est annulé. De plus, ceux qui disent « je commettrai davantage de péchés à ma guise » pour révéler la justice et la gloire de Dieu sont des personnes qui ne connaissent absolument pas la vérité. S'ils disent de croire en Jésus seulement avec des pensées charnelles et calomniant les justes, il est juste qu'ils finissent par recevoir la condamnation. En restant pécheurs, ils ne peuvent éviter le jugement et la destruction, et ils en viendront à pleurer et à grincer des dents dans un feu éternel où les vers grouillent et où le feu ne s'éteint pas. Nous avons assurément reçu le salut et reçu la rémission des péchés. Cependant, dans le monde, il existe des personnes qui nous calomnient sans cesse. Mes amis, ayez plutôt compassion de ces personnes. Enseignez-leur l'Évangile, remettez-leur des livres contenant la vérité et gardez un cœur compatissant. Nous recevons le salut uniquement par la foi. Quelle sorte de foi est-ce? C'est croire la parole fidèle et digne de confiance de Dieu qui a promis dans l'Ancien Testament et a accompli toutes ses promesses dans le Nouveau Testament. Où trouverait-on une foi aussi certaine et solide que celle qui consiste à croire que Jésus a accompli exactement la promesse que Dieu avait faite autrefois? Si l'on croit en Jésus-Christ comme son Sauveur, c'est le salut. Si l'on ne croit pas, c'est l'enfer. Il peut être leur liberté que des personnes qui ne sont pas nées de nouveau disent à notre égard « Je commettrai davantage de péchés pour la gloire de Dieu ». Cependant, lorsqu'ils se tiendront devant le Seigneur au dernier jour, ils n'échapperont pas au châtiment de l'enfer avec le verdict « Tu es un pécheur ». C'est pourquoi, tant que l'Évangile est encore proclamé et que l'Église, les serviteurs de Dieu et les saints sont à vos côtés, j'espère que vous croirez rapidement. Recevez la rémission des péchés par la foi. Prêchez l'Évangile aux autres après que votre propre âme ait d'abord été sauvée. Comment pouvez-vous dire aux autres de croire en Jésus alors que vous n'avez même pas résolu le fardeau de votre propre péché? Pourquoi essayez-vous de prêcher un tel Jésus en disant que vous êtes encore un pécheur même si vous croyez et en souffrant chaque jour? Je rends de sincères actions de grâce devant le Seigneur qui nous a complètement délivrés du péché. Par cela, je conclus ce message.